Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal grâce à Mzati. À la une de l'actualité ce soir sur Radio Kapi, 13 morts, 8 blessés et des maisons incendiées. Bilan d'une double attaque hier des rebelles ADF dans le groupement Bandibongo SIA. Nous sommes dans la chefferie de Walese Vonkutu à Ituri. Face à cette situation, les acteurs de la société civile et défenseurs des droits de l'homme haussent le ton et appellent les forces armées de la RDC à multiplier les offensives. Quelques membres du gouvernement élus députés nationaux ont déjà déposé leur démission. Vous le savez, le délai leur accordé par l'Assemblée nationale expire aujourd'hui. Parmi eux, le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et celui de l'économie Vital Kamerhe. Mais qu'est-ce qui va se passer si d'autres concernés n'opèrent pas leur choix avant minuit, y compris le premier ministre lui-même? Michel Kifindangoy nous en dit plus tout à l'heure. La promiscuité, la famine et le manque de soins médicaux sont notamment des facteurs qui occasionnent des décès des détenus dans la prison centrale de Walikale au Nord Kivu. Nous en parlons avec notre invité, Vicar Batundi Angi, coordonnateur national des foyers de développement pour l'autopromotion des personnes indigentes et en détresse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sécurité pour commencer. À Ituri, 13 personnes ont été tuées, 8 autres blessées et des maisons incendiées au cours d'une double attaque hier des rebelles des ADF dans le groupement Bandibongo SIA dans la chefferie de Walese Vonkutu. Selon des sources locales, ces exactions sont commises après plusieurs mois d'accalmie. Les acteurs de la société civile et l'ONG CRDH demandent à l'armée de multiplier des offensives contre l'ennemi. Radio Kapibunia, Ezekiel Muzalia.
Cette attaque intervient après plus d'une année d'accalmie observée dans plusieurs entités au sud du territoire d'Irumu où les forces conjointes FARDC-UPDF poursuivent des opérations contre les ADF. La première attaque de ces rebelles est intervenue samedi dernier dans la chefferie de Banyari Tchabi où ils ont tué 3 personnes et blessé 5 autres, indiquent des sources locales. Un autre groupe de ces inciviques a fait irruption dans le village Bandibongo SIA au sud-est du territoire dans la chefferie de Walese Vonkutu. Ils ont commis plusieurs exactions contre les civils composés essentiellement des retournés. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme qui assure le monitoring sécuritaire dans cette zone avance un bilan de 10 personnes tuées, 2 blessées ainsi que 15 maisons incendiées. Les victimes sont en majorité des femmes pygmées retrouvées dans leur domicile, indique Christophe Mounyanderou, coordonnateur de cette organisation. L'intervention des militaires des forces conjointes installées à 4 km du lieu du drame a permis de repousser l'ennemi. Selon des sources locales, les services de sécurité doivent procéder à l'identification des personnes qui collaborent encore avec ces rebelles pour les déférer devant les juges. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Non loin de là, dans le territoire de Beni au Nord Kivu, 15 personnes ont été tuées en l'espace de 3 jours dans différentes attaques attribuées aux rebelles des ADF dans plusieurs villages du groupement des Bambou Bakisiki. Plusieurs autres personnes ont été enlevées, indique la société civile locale qui parle d'un bilan provisoire. Cette structure citoyenne plaide pour des opérations militaires intenses dans la région contre les rebelles des ADF. Pendant ce temps à Goma, 2 bureaux de police incendiés en l'espace de 48 heures dans les quartiers Ndosho, commune de Karisimbi. Et pour cause, des cas de meurtres successifs attribués aux hommes en uniforme. La population en colère s'attaque ainsi au symbole des forces de l'ordre. Le récit de Chris Mukand.
Les bureaux de police de Mikeno et de Kabasha dans le quartier Ndosho ont subi la colère de la population qui dénonce le fait que des cas de meurtre sont enregistrés juste à proximité, mais aucun secours n'arrive. Dans la nuit de lundi à ce mardi, dame Sanvoura Kajé, Aline, a été tuée par balle chez elle à la maison par des hommes non encore identifié. C'est sur l'avenue Roi Sama, cellule d'Ira, quartier Ndosho, derrière l'institut Mikeno dans la commune de Karisimbi. Le dimanche, autour de 23h, c'est le jeune David Boutoa qui a été abattu par balle sur l'avenue Kabasha, Kabasha 1, toujours au quartier Ndosho. Par ailleurs, le président de la jeunesse commune de Karisimbi, Claude Rougo, dénombre une 60aine de maisons visitées par des bandits en l'espace de presque quelques semaines. 5 blessés dans l'intervalle de 4 jours sont internés à l'hôpital. Voilà qui justifie le ras-le-bol de la population du quartier Ndosho. Goma, Chris Mukand, Radio Kapi.
Nord Kivu toujours, des nouveaux combats ont été signalés aux alentours de la cité de Bweremana, à la limite entre la province du Nord Kivu et celle du Sud Kivu, entre les combattants résistants Wazalendo et les rebelles du M23. La cité de Bweremana est le chef-lieu de la chefferie de Baoundé en territoire de Masisi. Une partie de la population prise de panique s'est réfugiée à Minova, cité voisine de Bweremana, en territoire de Calais, dans la province du Sud Kivu. Le point avec Gabriel.
C'est dans la matinée à 8h que les accrochages ont commencé à 3 km de Bweremana. Les combats se sont concentrés sur les collines de Ndumba, près des villages de Nyamubingwa et Kashungamutwe, à environ 7 km de la colline Kabase. Selon plusieurs sources dans la zone, les combattants Wazalendo tiennent à rouvrir l'axe Chachasake, coupé depuis plus de 2 semaines par les rebelles où ils auraient installé leur base. Ces nouveaux combats ont encore provoqué le déplacement massif de la population prise de panique et qui s'est déversée dans la cité voisine de Minova et dans les agglomérations voisines dans les territoires de Calais, en province du Sud-Kivu. Nos sources affirment qu'après ces accrochages qui n'ont duré que quelques heures, les belligérants se seraient retranchés chacun dans ses positions initiales. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Politique à présent, certains membres du gouvernement élus, députés nationaux, ont déjà déposé leur démission à quelques heures de l'expiration du délai de 8 jours fixé par l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Liaou, Vital Kamerhe, Jean-Lucien Boussa, Julien Paluku et Claudine Ndossi sont parmi les premiers membres du gouvernement à quitter officiellement leur portefeuille pour leur siège à l'Assemblée nationale. Plusieurs autres membres du gouvernement sont déjà en train de poser individuellement leurs lettres au président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, même si le premier ministre lui-même n'a toujours pas déposer la démission de son gouvernement. Michel Kifindangoy.
La mesure d'incompatibilité évoquée à l'article 108 de la Constitution a concerné tous les sénateurs élus députés, dont Modeste Bahati Lukwebo, membres des institutions provinciales et ceux du gouvernement, en commençant par le premier ministre Jean-Michel Samalukonde, tous élus députés. Conformément aux articles 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et 129 de la loi électorale, les concernés ne sont pas obligés de démissionner pour siéger à l'Assemblée nationale, mais tous doivent choisir avant minuit entre leur siège à la Chambre basse et leurs fonctions actuelles. Qu'est-ce qui adviendra si cette option n'est pas levée dans le délai ? Gary Sakata répond.
Tous les ministres qui ne se seront pas prononcés aujourd'hui mardi jusqu'à minuit sont supposés avoir définitivement renoncé à leur mandat de député national et ils n'y reviendront plus jamais pour cette mandature.
Pendant ces temps, au niveau de l'Assemblée nationale, sur plus d'une centaine de députés concernés par le cumul des fonctions, plus de la moitié ont déjà déposé ce mardi leur lettre d'option au cabinet du président du bureau d'âge. Quelques ministres n'ayant pas démissionné ont confirmé avoir opté pour leur siège à l'Assemblée nationale, mais continueront à expédier les affaires courantes au gouvernement.
Michel Kifindangoy sur Radio Kapi. Et puis, l'Assemblée provinciale du Kwilu a procédé hier à la mission de validation des mandats des députés provinciaux élus lors des élections du 20 décembre 2023. C'est là au cours de la plénière tenue au siège de l'Assemblée provinciale à Bandundouville et à laquelle au moins 31 sur les 35 députés provinciaux ont pris part en attendant la tenue des élections législatives nationales et provinciales dans le territoire de Massimanimba qui compte au total 8 sièges au niveau provincial. Irène Mbomaluzolo nous en parle.
C'est après présentation, examen et adoption des rapports des commissions ad hoc chargées d'examiner les dossiers individuels des élus, suivis d'un huis clos, que les pouvoirs des 35 députés provinciaux du Kwilu ont été validés. À l'occasion, le président du bureau d'âge du dit organe délibérant, Oscar Nsaman, a invité ses collègues députés à commencer à faire le travail pour lequel ils ont été élus.
Nous venons de valider nos pouvoirs, ce qui nous confère, entre autres, les immunités, ainsi que le pouvoir de prendre des décisions constitutionnelles. Commencer à agir, commencer à interpeller, si c'est nécessaire, commencer à légiférer pour une meilleure performance de la gouvernance de notre province.
Le professeur Oscar Nsaman a par la même occasion invité les membres du gouvernement provincial dont les mandats ont aussi été validés étant députés provinciaux à respecter les délais de 8 jours leur accordés par l'article 77 et 78 de la loi électorale pour choisir entre l'Assemblée et le gouvernement. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Par ailleurs, au Sud Kivu, plus de 2 semaines des dépôts de candidatures des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, aucune candidature féminine titulaire n'est enregistrée sur les 6 déjà reçues. Ainsi, la CENI encourage les femmes du Sud Kivu à s'affirmer et aller dans la course au gouvernorat avec les hommes. Car, selon le secrétaire exécutif provincial de la centrale électorale, toute candidature de femme gouverneur sera exemptée du paiement de la caution des 10 millions de francs congolais. Pius Bikungu est au micro de Emmanuel Elamejua Kabedi.
Aujourd'hui, seuls jusqu'hier, 6 mandataires sont venus déposer les dossiers des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Il y avait 3 candidats indépendants et 3 des regroupements politiques. Un de ces 6, il n'y a pas de gouverneur titulaire femme. Pour ce qui est des sénateurs, nous avons 23 qui ont déjà déposé les dossiers de candidature. Parmi ces 23, nous avons 15 qui sont des indépendants, 7 sont issus des regroupements politiques. Et c'est pour cela que nous profitons de cette occasion pour sensibiliser les femmes, pour que les femmes puissent profiter de cette occasion pour postuler. Parce que nous n'avons pas vu de femmes candidates gouverneurs, et pourtant les femmes ont la capacité, hein, elles sont capables de travailler aussi comme gouverneurs. Il faudra rappeler aux femmes que si une femme postulait comme gouverneur, sa candidature sera exemptée de la caution. La caution elle-même pour les candidats gouverneurs, elle est de 10 millions de francs congolais.
Autre nouvelle sur la fréquence de la paix. La ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, est plongée dans le noir depuis près d'une semaine. En cause, la rupture en carburant pour faire fonctionner le groupe électrogène doté à cette ville en décembre dernier par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors de son passage dans cette ville pour sa campagne électorale. C'est ce qu'a déclaré hier le directeur provincial de la Société nationale d'électricité SNEL du Grand Bandundu, l'ingénieur Prosper Bakukuanza. On l'écoute au micro de Irène Mbomalozolo.
Nous venons de constater dans les réseaux sociaux que la SNEL a escroqué la population de Kenge. Il parle d'un montant de 270 000 francs qu'on aurait demandé à chaque ménage à Kenge. En tout cas, nous ne reconnaissons pas ça. La SNEL venait de doter la ville de Kenge d'un nouveau groupe. Pas un groupe vétiste, c'est un groupe pimpant neuf de 500 kVA, un groupe acheté qui fonctionne sans problème depuis le mois de décembre de l'année passée. Ce groupe-là a commencé à fonctionner avec le stock de carburant qu'on avait. Alors, nous avons constaté il y a une semaine que ce groupe ne fonctionne pas. Nous avons connu une petite rupture en carburant, mais la direction générale est en train de mettre tous les moyens pour que dans un bref délai, ce groupe soit encore opérationnel. Ce même type de groupe a été aussi doté à la ville d'Inongo, Gemena, Buta, Isiro, pour accompagner le chef de l'État. Je ne vois pas comment notre directeur général, M. Fabrice Lucinde, puisse saper les actions du chef de l'État. Avant que nous puissions alimenter, nous avions d'abord réhabilité les réseaux qui étaient pratiquement vétustes. On avait amené les poteaux, les câbles. Ce n'est pas pour que ça puisse s'arrêter en cours de chemin. Donc, je vous rassure que la population de Kenge sera alimentée par ces groupes-là.
Santé. Plus de 50 cas de peste bubonique, dont 5 décès, sont enregistrés depuis la semaine dernière dans la zone de santé de Reti, à environ 5 km au nord de la ville de Bunia, dans les territoires de Djougani-Touri. Selon des sources locales, parmi les patients, il y a une dizaine d'élèves de l'école primaire Pandroma qui ont manifesté les symptômes de cette maladie pendant les cours. Les leaders communautaires dans la zone plaident pour la prise en charge de cette maladie qui se propage rapidement dans les milieux. Plus de détails avec Ezekiel Mouzalia.
13 élèves, dont 2 de la maternelle, se sont évanouis lundi en plein cours dans une école primaire à Pandroma, dans la zone de santé de Reti, dans la chefferie de Walenupiti. Parmi eux, 9 filles et 4 garçons qui manifestaient des symptômes de la peste, dont le premier cas a été encore notifié le 8 février dernier dans la communauté. Ces enfants ont été transférés d'urgence à l'hôpital où ils bénéficient des soins. Ce mardi dans la matinée, 5 autres personnes ont manifesté des symptômes de cette maladie, indiquent des sources locales. Ces chiffres portent à 52 le nombre de personnes atteintes par cette maladie, dont 5 sont déjà décédées et une vingtaine d'autres sont sous traitement. Les notables de cette entité se disent inquiets de la résurgence de cette maladie et invitent les autorités à procéder à la vaccination porte à porte. L'une d'elles.
Un papa est décédé ici de la peste. Il était commerçant. Les gens qui sont partis au dé ne savaient pas qu'il était malade. Nous ne parvenons pas à comprendre comment pendant la saison sèche, les rats peuvent propager la maladie à cette fréquence. Dans un premier temps, il faut qu'on ferme d'abord les écoles, puis les marchés. Actuellement, il n'y a plus de vaccins.
Entre-temps, les autorités sanitaires exhortent la population à renforcer les mesures d'hygiène pour lutter contre les rats principaux vecteurs de cette maladie qui est endémique dans la région. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les élèves du lycée
Polytechnique 5 février 1979 de Brazzaville devait reprendre les cours ce 20 février 2024. Cet établissement avait été fermé il y a une semaine par les autorités gouvernementales pour un civisme grave. La reprise coïncide avec l'ouverture du procès contre plus d'une dizaine d'élèves qui ont descendu le drapeau tricolore national le 5 février dernier pour le remplacer par un drapeau monocolore. Les États-Unis ont mis leur veto ce mardi à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, leur troisième veto depuis le début de la guerre entre leur allié israélien et le Hamas. Le projet de texte qui exigeait un cessez-le-feu humanitaire immédiat qui doit être respecté par toutes les parties a recueilli 13 voix pour, une voix contre et une abstention.
L'invité.
Dans la province du Nord Kivu, la promiscuité, la famine et le manque de soins médicaux sont autant de facteurs qui occasionnent des décès à répétition des détenus dans la prison centrale de Walikale. À cela s'ajoute le défi que rencontre l'appareil judiciaire pour organiser des audiences foraines dans cette entité enclavée et qui a pour conséquence la détention irrégulière de plusieurs détenus préventifs civils et militaires. Vicar Batundi Angi, coordonnateur national des foyers de développement pour l'autopromotion des personnes indigentes et en détresse, et notre invité pour en parler. Il s'entretient avec Sifa Maguru.
Monsieur Vicar Batundi, bonjour.
Bonjour Sifa Maguru.
Votre organisation qui a des activités dans les territoires de Walikale a fait un constat par rapport à la situation des détenus à la prison de Walikale. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous avez constaté là-bas?
L'année passée, en 2023, nous avons enregistré 27 cas de décès parmi les détenus.
Les décès dus à quoi?
Bon, mauvaises conditions de détention, parce que pour manger c'est difficile. Lorsqu'on tombe malade, on n'a pas facilement accès aux soins de santé, mais aussi même les conditions dans la prison sont vraiment inhumaines. Imaginez-vous le cas d'aujourd'hui, la partie principale de la prison n'a même pas de porte. Les gardiens de la prison et le détenu se regardent d'acheter des faïences. À tout moment, on peut enregistrer d'incidents s'il y avait tentative d'évasion. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui font ce qui est taux de décès très élevé. Parce que même de janvier jusqu'à aujourd'hui, on vient encore d'enregistrer 3 cas de décès dans la prison, alors que nous sommes au début de l'année. Parmi les causes aussi, il faut noter la promiscuité. Parce qu'une prison construite pour 60 personnes, mais aujourd'hui, nous y avons plus de 200 personnes.
Le problème de cette prison de Walikale, vous en avez déjà parlé plusieurs fois, mais pourquoi la situation ne s'arrange pas?
Vous savez que Walikale est enclavée en termes d'accessibilité physique. La voie routière, elle est quasiment impraticable, et même la voie aérienne, et ça empêche à la justice militaire, par exemple, d'aller organiser, à la communauté, d'aller organiser des audiences foraines à Walikale, parce que dans la prison, aujourd'hui, il y a beaucoup de militaires qui sont là sans être jugé. Et le fait de ne pas y organiser régulièrement des audiences foraines fait à ce qu'il y a surpopulation carcérale. Alors imaginez-vous sur 207 personnes aujourd'hui, il n'y a que 11 condamnés parmi 3 femmes. Donc c'est vraiment une question préoccupante qui nous pousse à inviter les autorités à prendre des dispositions utiles.
Il y a quand même des juridictions, des bases là-bas. Il y a un parquet militaire et civil des bases. Il y a un tribunal de paix à Walikale. Ce qui pose problème, est-ce que ce sont les détenus qui dépendent du tribunal de grande instance ou comment?
Non, vous savez, par exemple, si nous prenons le cas actuellement avec l'état de siège, il y a plusieurs dossiers qui sont de la compétence de la juridiction militaire. Et donc, le tribunal de paix ne peut rien faire. C'est le cas, par exemple, des militaires qui s'y trouvent, et même d'autres civils. Peut-être que leurs infractions a lié plus avec la juridiction militaire.
Qu'est-ce que vous proposez en tant qu'organisation des droits de l'homme? Qu'est-ce qu'il faut faire rapidement?
Dans un premier temps, on peut mettre en place un mécanisme souple de traitement des cas pour se rassurer que s'il y a des cas bénés, par exemple, on libère les personnes concernées. Et s'il y a des cas dont les personnes nécessitent nécessairement un procès, On peut par exemple organiser une audience foraine. Les autorités judiciaires effectuent une mission à Walikale, peuvent y rester pendant 10 jours en train de traiter tous les dossiers. Et là, ça va permettre à ce que peut-être sur 200 détenus, il y a ceux qui peuvent être condamnés, mais la condamnation peut tomber dans une période où ils ont déjà purgé la peine. Automatiquement, ils seront libérés. Et avec ce mécanisme, on peut facilement avoir peut-être une cinquantaine de personnes qui vont rester dans la prison pour purger la peine. Et ça doit se faire le plus vite possible. Mais aussi, il faut réhabiliter la prison. Aussi, on doit développer une politique de faire travailler les détenus. Ça se fait dans d'autres pays. Pendant la journée, ils peuvent aller au champ. Il y a une grande concession. Ils peuvent cultiver. Et là, ils vont se nourrir. Et même, au lieu que les détenus demeurent une charge au gouvernement, pourtant, on peut capitaliser leurs énergies pour travailler. Ils peuvent aller dans des chantiers. Tout détenu qui a une expertise dans X ou Y domaine, dans le métier.
Et est-ce que dans cette prison, il y a des femmes et des enfants?
Bien sûr, parmi les 11 condamnés, il y a 3 femmes. Mais pour les enfants, il y en avait, mais pour présentement, ils ne sont plus là.
Merci beaucoup, Monsieur Vicar Batundi.
Je vous remercie.
Notre invité était interrogé par Sifa Maguru. Ce journal touche à sa fin. Coordonné par Jude Mister Bilanda et supervisé par Pele Kipe Lamondo. La mise en onde de Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa. Vous pouvez les réécouter sur www.radiokapi.net. Merci.